Vous écoutez le podcast Allez Savoir. Aujourd'hui, pour le nouvel épisode du podcast Allez Savoir, nous vous proposons d'évoquer le sujet de l'égalité professionnelle avec notre invitée Elsa Boulet. Bienvenue Elsa Boulet, vous êtes chercheuse en sociologie à Nantes Université. Pour commencer, tout simplement, quels sont les enjeux de l'égalité professionnelle aujourd'hui ?
Les grands enjeux actuels de l'égalité professionnelle, ils sont de différents ordres. Le premier, celui auquel on pense le plus souvent, ce sont les inégalités salariales, qui effectivement sont assez marquées en France. Ensuite, on a l'enjeu du déroulement de carrière, où là encore, on repère des inégalités assez nettes entre les femmes et les hommes. Un troisième enjeu, c'est celui des conséquences de la parentalité sur les trajectoires professionnelles et donc aussi sur les revenus. Et enfin, il y a l'enjeu des violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel.
Il y a encore des écarts de salaire aujourd'hui entre les femmes et les hommes en France ?
On estime que, tout secteur confondu, les hommes gagnent environ un tiers de plus que les femmes, et dans le secteur public, les hommes gagnent en moyenne 20% de plus que les femmes. Alors ça, c'est quand on prend tous les salariés ensemble et qu'on fait une moyenne. On peut regarder plus dans le détail ce qui contribue à cette inégalité salariale, à comment expliquer cette inégalité salariale. Ce qui est le plus explicatif et ce qui pèse le plus sur les inégalités salariales, c'est déjà le fait que les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes métiers. Il y a des métiers à majorité féminine et des métiers à majorité masculine. Dans les métiers à majorité féminine, en moyenne, les salaires sont plus bas. Donc ça, c'est déjà une première explication à ces inégalités assez fortes. Une autre explication, c'est celle du temps de travail, puisqu'il y a 30% des femmes qui sont à temps partiel contre seulement 7% des hommes. Et donc le temps de travail, là aussi, va jouer un rôle très important dans ces inégalités de salaire.
Et donc dans le déroulement de carrière, pourquoi les femmes n'ont pas les mêmes possibilités d'évolution que les hommes ?
Quand on parle d'inégalité entre les femmes et les hommes en termes de carrière, on peut penser au fameux plafond de verre. Le plafond de verre, ça désigne le fait qu'on va retrouver beaucoup moins de femmes dans les postes à responsabilité, les postes de direction, de management. Donc c'est un vrai problème qui est tout à fait documenté et qui est existant. Mais il faut aussi regarder du côté des femmes qui sont dans les métiers moins qualifiés, qui sont entre guillemets en bas de l'échelle. Et ce qu'on constate, c'est que dans les métiers à majorité féminine, en fait, les amplitudes de carrière, les possibilités d'évolution sont beaucoup moins importantes que dans les métiers dits métiers d'hommes, avec par exemple moins d'évolution en interne, moins d'évolution par l'expérience. Et donc ça va contribuer à ces inégalités en termes de carrière.
Avoir des enfants en 2023, c'est pénalisant en termes de trajectoire professionnelle ?
Le fait d'avoir des enfants, ça a des conséquences diamétralement opposées sur les hommes et sur les femmes. Pour les femmes, le fait d'avoir un ou plusieurs enfants, c'est associé à une diminution du temps de travail. Certaines femmes, plutôt dans les milieux les plus modestes, vont interrompre leur activité pendant quelques années pour s'occuper de leurs enfants en bas âge. Les femmes des classes moyennes ou des classes supérieures vont plus souvent passer à temps partiel ou alors changer d'emploi pour occuper un emploi qui leur prend moins de temps, qui est un poste à moins de responsabilité. Du côté des hommes, on repère beaucoup moins des changements de ce type. Ce qu'on voit plutôt dans les études, c'est que les hommes vont avoir tendance à augmenter leur temps de travail salarié et augmenter leurs revenus. Et donc là, les trajectoires des hommes et des femmes prennent vraiment deux chemins complètement opposés.
Comment les futurs pères appréhendent l'arrivée d'un enfant dans leur carrière ?
Alors, dans l'étude que j'ai menée auprès de couples qui attendaient un enfant, les hommes ne déclaraient aucun effet de la grossesse de leur compagne sur leur travail. Et ça, c'est entre autres choses lié au fait que les hommes ne font pas du tout valoir les mesures qui leur sont destinées. Par exemple, la possibilité de s'absenter de son travail pour accompagner sa conjointe à une consultation médicale. Ça, c'est un droit qui est prévu et qui existe, mais les hommes ne se saisissaient pas du tout de ce droit-là. Et donc, du point de vue de leurs collègues de travail ou de leur hiérarchie, eh bien en fait, la grossesse de leur conjointe était complètement invisible, n'avait aucun effet sur le milieu professionnel.
Comment est vue la grossesse dans le monde du travail aujourd'hui ?
La grossesse des femmes en milieu professionnel aujourd'hui, elle reste un enjeu compliqué et qui pose une série d'obstacles pour les femmes enceintes. En théorie, le droit du travail et le droit français protègent les salariés enceintes contre le licenciement. Il y a aussi des dispositions d'aménagement du poste de travail, d'aménagement des horaires, de protection contre la manipulation de substances toxiques, par exemple. Dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que ces mesures, elles ne sont pas systématiquement appliquées, que les salariés elles-mêmes ne sont pas forcément au courant de leurs droits, ne les font pas valoir, et que les employeurs n'appliquent pas ces mesures de protection. Du coup, ça a des conséquences sur les salariés, en termes de santé, bien sûr, mais aussi en termes de pression qu'elles subissent dans le milieu professionnel pour ne pas apparaître comme des salariés qui seraient moins sérieuses ou moins impliquées du fait de leur grossesse. Et donc, cette pression-là, elle reste toujours importante et vécue par les femmes enceintes au travail.
Alors maintenant, parlons des violences sexistes et sexuelles au travail. Subsistent-elles dans le monde professionnel ?
Les violences sexistes et sexuelles sont importantes en milieu professionnel. Quand on regarde le risque de subir des violences sexistes et sexuelles, le premier cadre où les femmes subissent ces violences, c'est dans le cadre intime, familial, domestique. Mais le deuxième lieu où ces violences sont les plus fréquentes, c'est dans les études ou dans le milieu professionnel. Ces violences, elles sont assez fréquentes, puisque 20% des femmes ont déclaré avoir subi des violences en milieu professionnel dans les 12 derniers mois, et parmi ces femmes, une sur cinq déclarait des violences à caractère sexuel. Donc c'est pas du tout négligeable, et d'ailleurs c'est des choses qui sont apparues avec MeToo, où des femmes ont déclaré des formes de harcèlement et de violence dans le milieu du spectacle, par exemple, du cinéma, ou encore dans d'autres milieux professionnels.
Comment lutter contre ces violences ?
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle doit prendre plusieurs formes à mon avis. Le premier enjeu, c'est celui de la prévention et de l'information, et donc notamment des campagnes de sensibilisation qui débanalisent, si je peux m'exprimer ainsi, les propos à caractère sexiste, à caractère sexuel, le fameux humour entre guillemets sexiste. Ça, c'est un premier enjeu qui est important, c'est d'affirmer que voilà, le cadre professionnel n'est pas un cadre dans lequel il est admis de tenir des propos dégradants envers ses collègues. Le deuxième point, c'est qu'il y ait des sanctions effectives à l'encontre des personnes qui commettent des propos ou des actes violents envers leurs collègues. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est très important, puisque l'impunité fait le lit de la répétition et de l'extension de ces violences sexistes et sexuelles. Donc on a besoin d'une véritable prise en compte de ces violences, du côté des sanctions et aussi du côté de l'accompagnement des victimes dans leur démarche auprès de la hiérarchie, éventuellement auprès de la médecine du travail ou encore de la justice.
Elsa Boulay, vous nous avez détaillé les obstacles à l'égalité professionnelle aujourd'hui en France. Quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour promouvoir l'égalité professionnelle ?
Pour promouvoir l'égalité professionnelle, déjà, la première solution, ce serait d'appliquer réellement les lois existantes. Puisque en France, on a un certain nombre de lois, de dispositifs législatifs qui existent déjà pour assurer l'égalité professionnelle, mais le problème, c'est qu'ils sont souvent pas ou peu appliqués. Par exemple, les entreprises et les administrations ont une obligation de mener des négociations collectives sur l'égalité professionnelle. Mais en Île-de-France, par exemple, 2/3 des entreprises privées sont hors la loi de ce point de vue-là, mais les sanctions ne sont pas appliquées. La deuxième piste de solution, c'est de renforcer les dispositifs existants en exigeant des employeurs non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. Une obligation de moyens, c'est par exemple dire aux entreprises et aux administrations « vous devez négocier sur l'égalité professionnelle ». Ça, c'est une chose, mais une obligation de résultat, c'est plus fort et c'est plus intéressant, puisque c'est dire aux employeurs et aux administrations « vous avez 3 ans pour réduire de tant de pourcents les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, vous avez 3 ans pour vous assurer, par exemple, que les salariés en retour de congé maternité retrouvent exactement leur même poste, leur même rémunération, leur même responsabilité ».
Et les syndicats ont-ils un rôle à jouer pour lutter contre les inégalités ?
Les organisations syndicales se sont féminisées à la fois dans leur base, il y a de plus en plus de femmes syndiquées, mais aussi dans les postes à responsabilité. Et donc ça a aussi un effet sur les revendications qui sont portées et les préoccupations qui sont prises en charge par les organisations syndicales. Les syndicats, ils ont un rôle à jouer dans la l'égalité professionnelle, un rôle d'information des salariés sur leurs droits, un rôle d'accompagnement pour faire valoir ces droits, et puis bien sûr un rôle dans la négociation collective. Si on prend l'exemple du Québec, le Québec est souvent cité comme un modèle en matière d'égalité professionnelle, notamment du fait d'une loi qui s'appelle la loi sur l'équité salariale qui a été passée en 1996 et qui impose à toutes les entreprises et toutes les administrations une obligation légale d'avancer vers l'égalité salariale. Et cette loi, elle est particulièrement efficace parce qu'elle a été portée et accompagnée par les organisations syndicales, avec un taux de syndicalisation beaucoup plus important au Québec par rapport à la France.
Est-ce qu'encourager la mixité dans les métiers peut être une solution ?
La mixité dans les métiers, c'est un enjeu très important, puisque, on l'a vu, la division entre des métiers à majorité féminine et des métiers à majorité masculine a tout un tas de conséquences en chaîne sur la pénibilité, les carrières, les salaires. Pour encourager cette mixité, une première piste de solution, c'est de regarder ce qui se passe un petit peu avant, c'est-à-dire dans la formation et l'orientation des jeunes. Ça, c'est une première piste d'action. Une deuxième piste d'action, c'est de revaloriser les métiers à majorité féminine qui sont à qualification et à responsabilité équivalente, moins rémunérateurs et moins intéressants en termes de perspectives de carrière que les métiers à majorité masculine.
On a l'impression qu'il y a davantage d'actions de sensibilisation pour féminiser les métiers dits masculins que l'inverse.
Oui, c'est aussi mon sentiment, puisqu'on va plutôt encourager les femmes à rentrer dans les métiers d'hommes, qui encore une fois sont les métiers qui vont apparaître les plus prestigieux, qui sont les plus valorisés, qui vont apparaître comme les plus techniques ou les plus experts. L'inverse est beaucoup moins vrai. On va avoir peu de campagnes de sensibilisation pour faire rentrer les hommes dans les métiers du soin à la personne, par exemple, ou de l'éducation. Ce qu'on constate, c'est que les métiers à majorité féminine sont généralement vus comme moins qualifiés, moins experts, puisqu'on ne reconnaît pas les compétences des femmes. On va avoir tendance à naturaliser les compétences des femmes. Par exemple, dans le soin aux personnes, on va considérer qu'il est naturel ou évident pour une femme de savoir bien s'occuper d'un enfant ou bien savoir s'occuper d'une personne âgée. Alors qu'en réalité, si on regarde de près le travail que réalise par exemple des assistantes maternelles ou des aides-soignantes, eh bien en fait, il y a tout un ensemble de compétences, de savoir-faire, qui sont des savoir-faire aussi bien techniques que relationnels, et que donc ces métiers-là ont une forme d'expertise et de qualification. Et c'est aussi en reconnaissant les compétences dans les métiers à majorité féminine qu'on va pouvoir les revaloriser, aussi bien du point de vue symbolique que du point de vue financier et salarial.
Est-ce que l'employeur peut favoriser un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle ?
L'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est un gros enjeu et c'est notamment quelque chose qui est ressorti pendant la crise du Covid et après. Le premier moyen, c'est les horaires de travail. Alors le cas un petit peu classique, c'est la réunion de travail à 17h, à l'heure où les parents et notamment les mères vont devoir quitter le travail pour aller récupérer leurs enfants. Ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, c'est les dispositifs plus spécifiques qui peuvent être mis en place par les employeurs, par exemple des places en crèche pour les enfants en bas âge. Ça peut être des crèches d'entreprise, ça peut être aussi des employeurs qui vont réserver pour leurs salariés des places en crèche à proximité du lieu de travail.
Le congé menstruel, il y a des expérimentations dans certaines collectivités, dans certaines entreprises. Qu'en pensez-vous ?
Le congé menstruel, donc c'est, alors je crois que c'est expérimenté dans quelques communes de France, mais ça vient d'être adopté en Espagne. Et donc c'est la possibilité pour les femmes de prendre 1 à 2 jours de congé par mois au moment de leurs règles. Ça peut peut-être paraître bizarre à certaines personnes, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certaines femmes, notamment celles qui sont atteintes d'une maladie chronique qu'on appelle l'endométriose, peuvent avoir des douleurs extrêmement fortes au moment de leurs règles. Pour donner un point de comparaison, les douleurs de l'endométriose peuvent être équivalentes aux douleurs d'une triple fracture. Donc on n'est pas du tout sur une petite gêne, on est vraiment sur une douleur extrêmement importante qui peut aller jusqu'à l'évanouissement et qui, dans tous les cas, rend les personnes incapables de réaliser leur travail de façon normale. Donc ce congé menstruel, il peut être extrêmement précieux pour ces personnes-là, pour libérer de la pression d'aller au travail coûte que coûte et de tenir en serrant les dents, et de prendre plus grand soin de leur santé pour être encore plus aptes à réaliser leur travail sur les autres jours du mois.
On a évoqué beaucoup de sujets. À votre avis, quelles sont les actions à mener dans le futur pour améliorer l'égalité professionnelle ?
Effectivement, il reste pas mal de chemin à parcourir sur l'égalité professionnelle et aussi sur l'égalité au sein des couples et dans la sphère familiale. En matière d'action collective et de dispositifs publics, ce qui me semble important, c'est de ne pas seulement se focaliser sur le haut de la hiérarchie, par exemple les actions de quotas ou de représentation des femmes dans les postes les plus prestigieux ou les postes à responsabilité. Certes, c'est un enjeu important, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que la majorité des femmes occupent des emplois peu qualifiés, peu rémunérés, souvent des emplois à temps partiel. Et donc je pense que les actions doivent se concentrer sur ces secteurs-là, sur ces métiers-là, pour améliorer réellement et significativement les conditions de travail, les conditions de rémunération de la majorité des femmes.
Y a-t-il des pays qui font figure de modèle en termes d'égalité professionnelle ?
L'exemple du Québec, il est intéressant avec la loi sur l'équité salariale qui a été votée en 1996. Cette loi sur l'équité salariale, elle impose une obligation à toutes les entreprises et toutes les administrations de travailler vers une égalité effective. L'autre point qui est intéressant, c'est que cette loi, elle fixe un cadre et des consignes assez précises pour justement comparer les emplois à majorité féminine, les emplois à majorité masculine, et essayer de trouver des équivalences pour aligner les emplois à majorité féminine sur les emplois à majorité masculine, à compétences et responsabilités équivalentes. Et donc une fois qu'on a fait cette comparaison, cette loi, elle comporte aussi une obligation de rattrapage salarial pour que progressivement, les métiers de femmes soient aussi bien rémunérés que les métiers d'hommes. Et donc il me semble que de ce point de vue-là, c'est un exemple qui est vraiment intéressant et dont on pourrait s'inspirer en France, sachant que ce principe de comparaison des métiers existe déjà dans la loi française, mais pour le moment, il est assez peu mobilisé, assez peu appliqué. Au Québec, il y a eu des résultats concrets puisque l'écart de rémunération était déjà moins important au Québec qu'en France. Il était de 16%, les femmes gagnaient 16% de moins que les hommes en 2000 et en 2016, cet écart était passé à 10%. Donc il reste un écart de salaire qui n'est pas du tout négligeable, mais on a vu un effet et cet écart a diminué. Pour la France, effectivement, le principe de rémunération égale pour travail de valeur égale, il existe dans la loi depuis les années 80, mais il n'est pas encore réellement mobilisé et appliqué. Et on a même eu certains retours en arrière sur des mesures d'égalité professionnelle, avec notamment le retoquage du rapport de situation comparé qui était demandé aux entreprises, qui n'est désormais plus exigé en tant que tel. Donc à l'heure actuelle, les entreprises ont encore moins l'obligation de produire des chiffres et des préconisations sur la comparaison entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.
Merci Elsa Boulay. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Intraparis. Merci à tous! Retrouvez tous les épisodes d'Aller Savoir sur Intraparis et sur le site Ocha. Écoutez, comprendre, apprendre avec Aller Savoir.